Nous allons maintenant tout de suite continuer avec la même prédication d'hier. Ici, dans Actes des Apôtres 13, l'apôtre, avant de présenter son exposé, a dit ceci au verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 13, la deuxième partie du verset 16. « Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez-moi. Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez-moi. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu doit revenir. Avant cela, une possibilité d'écoute sur les choses divines n'est pas du tout possible. Pourquoi les gens agissent-ils comme ils le font aujourd'hui? Parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Si nous avions la crainte de Dieu en nous, les choses seraient très différentes. Et même ceux qui se croient sages doivent tenir compte du fait que leur propre sagesse est une folie aux yeux de Dieu. Et que le commencement de la sagesse divine réside dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Le prophète Ésaïe dit aussi, « Heureux l'homme qui tremble en pensant à sa parole. » Ésaïe 66, 2. « Si un tremblement nous saisit à l'écoute de la parole de Dieu, c'est que la chose est juste en nous. Si nous la prenons à la légère, c'est qu'elle ne nous a pas du tout interpellés. » Le verset 29 dit ici, « Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Verset 30. « Et pendant plusieurs jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. » Et qui sont maintenant témoins pour lui auprès du peuple. Ce sont maintenant des témoins qui l'ont vu et entendu, et cela après sa résurrection. Car les croyants comme les non-croyants savaient qu'il était vivant, qu'il marchait sur la terre, qu'il accomplissait des miracles et des signes, qu'il prêchait le sermon sur la montagne qu'il avait enseigné. Tous ceux qui vivaient alors autrefois le savaient. Mais après la résurrection, la situation avait changé. Seuls les croyants, seulement ceux à qui il était apparu et ceux qui avaient vraiment cru lorsqu'il leur était apparu, ont pu l'accepter et le croire. Tous les autres ne croient pas encore jusqu'à aujourd'hui qu'il est ressuscité. Il est également écrit au verset 31, « Étaient des témoins auprès du peuple pour lui » au verset 32 maintenant. « Et nous vous apportons le message annonçant le salut. » Que Dieu a accompli la promesse faite autrefois à nos pères. Verset 33. Pour nous, leurs descendants, par la résurrection de Jésus. Comme il est écrit dans le psaume 2. Oh, comme c'est merveilleux que ces apôtres aient été conduits par l'Esprit de Dieu vers la parole de Dieu. Ils ont justifié bibliquement l'événement salvateur de l'époque, l'ont classé au sein de la parole prophétique et ont ainsi vécu l'action de Dieu, voire la confirmation de manière puissante. Nous croyons que nous vivons maintenant à nouveau dans une période prophétique et que toutes choses doivent être ordonnées bibliquement. Venons-en maintenant aux versets qui nous ont été lus. Et à ce sujet, je voudrais aussi lire l'Ancien Testament, le premier chapitre du prophète Habakkouk, car c'est ici que se trouve ce qui est écrit, ce qui a été cité dans les Actes des Apôtres. Habakkouk, chapitre 1, du verset 1. Voici la parole de Dieu que le prophète Habakkouk a vue. Est-ce que vous remarquez? A vu, non pas entendu, mais la parole de Dieu qu'il a vue. Ce sont des choses qui lui ont été montrées par Dieu dans une vision et que ensuite il a dû prononcer par inspiration. Maintenant le verset 2. Depuis combien de temps, Seigneur, j'appelle au secours sans que tu l'entendes? Depuis combien de temps je crie vers toi à propos de la violence sans que tu apportes du secours? Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir le malheur et dois-je voir la misère, l'oppression et la violence s'exercent sous mes yeux? La dispute s'installe et la discorde s'élève. Verset 4, c'est pourquoi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste. C'est pour cette raison que la justice est pervertie au grand jour. Est-ce que j'ai dit cela ou est-ce que je l'ai lu? Avez-vous tous lu avec moi? J'ai lu. Je n'ai pas mémorisé et seulement parlé, j'ai lu. Et juste après ce verset, il est écrit au verset 5, « Regardez autour de vous parmi les peuples et regardez tout autour. Soyez stupéfaits et étonnés, car il y a une œuvre que j'accomplis en vos jours et vous ne la croyez pas quand on vous la racontera. » Nous avons tous lu la même chose dans Actes des Apôtres 13 au verset 41. Nous avons tous lu la même chose. Et c'est dans ce contexte, lorsque ce prophète décrit l'état des choses, et juste après que la réponse est venue, regardez autour de vous parmi les nations. Non pas regardez autour de vous parmi le peuple d'Israël, mais parmi les nations, les peuples. Vous voyez de quoi il s'agit ici? Dieu a jeté un pont vers les nations par Golgotha. Et Paul l'a justement expliqué si clairement dans Actes des Apôtres 13, je vous le lis pour que vous sachiez que c'est écrit ainsi. Actes Apôtres 13, verset 46. Alors, Paul et Barnabas leur déclarèrent avec assurance. C'est à vous, Juifs, que la parole de Dieu devait d'abord être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens. Verset 47, car c'est ainsi que le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai fait la lumière des nations pour que tu deviennes un salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48, quand les païens entendirent cela, ils se réjouirent et louèrent la parole du Seigneur. Et tous ceux qui avaient été ordonnés pour la vie éternelle crurent. Verset 49, c'est ainsi que la parole du Seigneur se répandit dans toute la région. Ici, Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, a résumé les choses et a expliqué et ensuite dit ce qui avait déjà été donné au prophète Habakkuk. Et ensuite, il a dit ici, cette parole s'accomplit ici, c'est-à-dire, et il a également bien pris la parole du prophète Ésaïe au chapitre 49, verset 6, et l'a exposé, montrant que le tournant était arrivé, que le temps était écoulé pour les Juifs et que le temps avait commencé pour les nations. Ne sommes-nous pas nous aussi à la veille d'un tournant? N'est-il pas possible que ceux qui ont participé à l'alliance et aux promesses ne soient soudainement plus disponibles et que le Seigneur doit dire « Ceux qui ont été invités ne sont pas venus, allez au coin de rue et aux clôtures et faites entrer ceux que vous trouverez, les méchants et les bons. » Matthieu 22, verset 8. Nous ne savons pas, mais la maison de Dieu sera pleine. Et lorsque le prophète dit ici, Habakkuk 1, verset 2, « Depuis combien de temps, Seigneur, j'appelle au secours sans que tu l'entendes ?» Habakkuk 1, verset 2, « Depuis combien de temps je crie vers toi à propos de la violence sans que tu m'apportes du secours ?» Verset 3, « Pourquoi me fais-tu voir le malheur et dois-je voir la misère ?» L'oppression et la violence s'exercent sous mes yeux. Le conflit s'installe et la discorde s'élève. Verset 4. C'est pourquoi la loi reste sans vie et la justice sans force, car l'impie charme le juste, triomphe du juste. C'est pourquoi la justice se montre tordue. Le juste ne trompe pas l'injuste. Le méchant, il ne lui tend pas de piège, il n'établit pas de filet dans sa cachette. L'impie fait des avances au juste et non le juste à l'impie. La parole de Dieu reste éternellement vraie. Et ce grand homme de Dieu doit parler de manière prophétique. Le conflit surgit. La colère s'élève. La discorde. Je crie vers toi et tu n'écoutes pas. Je crie et tu ne réponds pas. Violence et oppression, tout est là et tu ne réponds pas. Et puis, il y a le pire de tout. C'est pourquoi la justice apparaît tordue. C'est ce qui se passe quand l'impie ensorcelle le juste et quand il le trompe. Le droit n'est alors plus accepté parce que les gens ont perdu confiance et il apparaît au grand jour. Le droit apparaît au grand jour déformé. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et après cela, le Seigneur dit, au verset 5, « Regardez autour de vous parmi les peuples et regardez autour de vous. Soyez stupéfaits et étonnés, car il y a une œuvre que j'accomplis en vos jours. » Se référant à Dieu, que Dieu accomplit dans nos jours. « Vous ne la croirez pas quand on vous la racontera. » Eh bien, nous ne voulons pas croire parce qu'on nous la raconte. Nous croyons parce que nous en sommes les témoins. Nous croyons parce que nous avons nous-mêmes été saisis par la grâce de Dieu. On raconte beaucoup de choses et vous savez très bien, peut-être que cela m'arrive aussi à moi. On revient d'un voyage, on fait un récit. Et c'est quelque chose de puissant. Les évangélistes racontent de grandes et puissantes choses qui se sont produites ici ou là. Et là où ils se trouvent, il ne se passe rien. Et l'auditeur a bien sûr le droit de se poser la question. Oui, si de si grandes choses se sont produites ici et là et partout, pourquoi ne se passe-t-il absolument rien ici? mais ils ont des récits puissants quand ils sont en voyage ici et là. Nous voulons faire partie de ceux qui voient de leurs propres yeux ce qu'ils croient au plus profond de leur cœur. Et comme nous l'avons lu hier soir dans la prédication ici, le Seigneur n'a fait que des choses pour nous montrer ce qu'il fera encore en conclusion, à savoir que de plus grandes choses doivent encore arriver. Et cela nous humilie à un degré extraordinaire sous la main puissante de Dieu. Et nous disons, un morceau d'argile comme nous, inutilisable, inutile à tout bien, que devons-nous faire? Et puis le Seigneur dit, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à me laisser faire les choses. Vous n'avez qu'à vous mettre entièrement à ma disposition afin que je puisse accomplir mon œuvre à travers vous. De même que j'ai prononcé ma parole à travers vous, de même j'accomplirai mes œuvres à travers vous. Et en fin de compte, nous ne sommes que des canaux par lesquels la puissance de Dieu s'est écoulée, des hommes qui ont reçu la grâce de Dieu pour prendre part à ce que Dieu fait maintenant. J'aimerais poursuivre la lecture de cette prédication à la page 16, les dons appropriés. Citation. Comprenez-vous pourquoi nous sommes ici? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons été placés ici dans un but et nous devons servir ce but. Cependant, nous sommes toujours sur la base du libre arbitre et pouvons le servir ou le rejeter, comme ce fut le cas avec Adam au commencement. Nous devons également tenir compte de ce qui est dit ici. D'une part, Dieu nous a placés ici dans un but précis. D'autre part, nous pouvons nous mettre à la disposition de Dieu ou nous en détourner. Dieu n'a pas privé les hommes jusque dans les moindres détails, et jusqu'à la fin du libre arbitre. Même si nous croyons à la prédestination, les prédestinés doivent être prêts à dire oui dans leur cœur à ce que Dieu leur propose. Dieu n'imposera rien à personne. Il est dit ici que nous ne sommes pas ici par hasard, mais dans un but bien précis, afin de pouvoir servir ce but. C'est ce que nous croyons de tout notre cœur. L'Église, et en particulier dans la dernière période actuelle, est là dans un but très particulier. Et ce but divin, nous l'avons reconnu. Il s'agit de l'appel à sortir, de la préparation et de l'achèvement, mais il y a plus encore. Il s'agit encore de plus que ça. Il s'agit de permettre à Dieu de confirmer une fois de plus sa parole à travers l'Église comme jamais auparavant, afin que l'Église soit légitimée en tant qu'Église de Dieu par ce que Dieu fait dans son Église. C'est cela qui la légitime. Et nous avons dit ce que Frère Branham a prêché, que chaque chose, chaque espèce produit à nouveau ce qu'elle est elle-même, produit selon son espèce. Et il est déjà écrit dans la Genèse que chaque plante est apparue et a réapparu selon son espèce. Et nous avons souligné, comme Frère Branham l'a dit, chaque assemblée produit plus de membres de la même assemblée. Mais dans l'Église du Dieu vivant, davantage de fils et de filles de Dieu doivent émerger. Pas seulement des membres d'une assemblée, mais des membres du corps de Jésus-Christ. Des personnes qui sont réellement nées de nouveau par l'Esprit de Dieu pour une espérance vivante. Dans la deuxième citation, nous lisons, citation, « Si vous êtes une jeune femme, consacrez votre moralité. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre moralité. Consacrez vos pensées, vos sentiments, consacrez votre cœur, consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous êtes et laissez Christ agir par ce biais. Quelle chose merveilleuse. Vous devez traverser des rivières, passer des ponts, traverser des buissons d'épines et des fourrés, traverser des forêts, des endroits sombres, des montagnes et des hauteurs. Que faites-vous? Un jour, vous vous tiendrez là et devrez regarder en arrière pour voir d'où vous venez. Et vous serez jugé selon le chemin que vous aurez emprunté. C'est pourquoi vous devez tout diriger, votre esprit et vos pensées vers cette étoile polaire, le centre de Dieu, et ne pas vous en écarter. Suivez-le à la lettre. Elle vous conduira comme les sages, tout droit au Christ, comme les mages, tout droit au Christ. Frère Branham compare l'étoile polaire à l'étoile fixe nécessaire à l'orientation. Il la compare à la Bible. Ici, il y a une orientation. Ici, on ne se tient pas une fois ici, une fois là-bas et une fois ensuite là. Ici, dans la Bible, on s'arrête là où Dieu nous a placés sur la parole infaillible et éternelle de Dieu. Et c'est ce que Frère Branham a voulu souligner ici et dire, celle-ci est cette étoile du Nord, cette étoile polaire. Et si nous avons ressenti la parole de Dieu comme si précieuse en ces derniers temps, nous voulons, avec l'aide de Dieu, nous laisser entièrement orientés par elle. Il est dit ici, consacrez votre esprit, votre pensée, votre cœur, votre âme. Consacrez tout ce que vous êtes et laissez ainsi Christ agir à travers ces choses, à travers tout votre être. Au fond, c'est là tout le mystère de notre vie. Et Paul l'a résumé en quelques mots dans Colossiens 3, au verset 3. Lorsque Christ sera manifesté dans votre vie, alors nous aussi, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Si un abandon et une consécration totale, un abandon de notre vie et une consécration totale à Dieu peuvent avoir lieu, s'il peut disposer de nos pensées, de nos cœurs, de tout, alors il devrait arriver que Dieu puisse lui-même se manifester d'une manière inédite à travers nous. Maintenant que chacun de nous regarde en lui-même et peut-être aussi l'un vers l'autre et dise, « Seigneur, cela fait tant d'années que nous sommes croyants. Nous n'avons pas réussi à mettre nos dispositions, nos pensées, notre cœur, notre âme notre tout, si complètement à ton service. Et il se peut, alors que nous ayons tendance d'une certaine manière à abandonner et à dire à nous-mêmes, « Seigneur, nous n'avons pas réussi. » Et c'est justement dans cet aveu et cette concession sincère, « Nous n'avons pas réussi comme nous l'aurions bien voulu. » C'est justement là que Dieu nous tend déjà sa main puissante et nous appelle, ce que vous n'avez pas réussi, je le réussirai avec vous. Et c'est par grâce que j'accomplirai tout cela en vous, que je produirai tout cela en vous. Et puis, une chose est particulièrement mise en évidence par le fait que ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui peut agir à travers un homme. Vous savez que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui connaissaient Frère Branham, des gens qui rejettent totalement son message et étaient totalement contre lui. Mais ils ont tous témoigné d'une chose à l'unanimité. Ils n'ont jamais vu un homme aussi humble de toute leur vie. Ils n'ont pas dit qu'ils n'avaient pas vu d'homme qui n'ait pas prié pour les malades ou par qui Dieu n'ait pas agi par des miracles et des signes. Parmi les nombreuses choses qui ont pu être mentionnées, c'est l'humilité qui a été soulignée par tous ces gens à l'unanimité. Vous savez, je peux vous dire qu'un homme peut se montrer humble et qu'il n'est pas obligé de l'être. Ça pourrait être qu'une apparence. Mais cet homme était humble, de cœur. Et c'est bien là le problème. Et qui a formé son cœur? Qui? Ne chantons-nous pas dans un cantique, « Donne-moi un cœur comme le tien, plein des plus saints instincts, plein de foi et d'amour, un cœur comme le tien, à ta louange. » Et c'est précisément ce que nous allons demander. Pour que Dieu puisse confirmer sa parole, nous devons avoir un tel cœur transformé réellement. Un cœur plein des instincts les plus saints, plein de foi et d'amour, un cœur dans lequel Dieu a fait sa demeure. Je voudrais encore lire rapidement quelques citations. Citation. En ces jours que nous vivons actuellement, Christ a confirmé parmi les hommes qu'il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu, car il est la parole. Quand nous voyons que la parole se vit elle-même, nous savons qu'un homme n'est pas capable de le faire. C'est Dieu, la parole, qui se manifeste à travers l'homme. Jésus lui-même a dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire, je suis un homme. Mais mon Père qui habite en moi me montre toutes ces choses qu'il fait lui-même. » Amen. Voilà, vous y êtes. Qu'est-ce que c'est? Dieu qui se manifeste en l'homme, qui se confirme en l'homme. Il en va de même aujourd'hui. Dieu, la parole promise pour ce temps, peut se confirmer en vous. Amen. Pouvez-vous alors vous y tenir? Montrez que vous y croyez. Laissez Dieu s'en charger. Croyez en cela. Soyez prêts à le servir et accepter de mourir à vous-même et à vos propres pensées. C'est le point. Ici, frère Branham utilise la même parole de l'Écriture qu'il a très souvent utilisée dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, où il est écrit « Le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils fait de même. » En d'autres termes, il a fait cela. Notre Seigneur, le Fils de Dieu, n'allait pas partout faire ce qu'il voulait, mais il faisait réellement la volonté de Dieu le Père. Nous ne sommes pas ici pour nous promener sur la terre en disant « Maintenant, je fais ceci » ou « Maintenant, je fais cela ». Nous sommes ici pour faire seulement la volonté de Dieu. Et de même que Dieu était en Christ et s'est manifesté par lui, de même Christ est en nous pour se manifester par nous. Et ici, notre âme pourrait presque se déchirer en pensant que nous n'en sommes pas encore là. Et pourtant, nous regardons en arrière avec un cœur reconnaissant pour les choses glorieuses que Dieu a déjà faites. Oh, si quelqu'un qui s'est assis ici ou ailleurs sous l'écoute de la parole de Dieu pendant toutes ces années pouvait se taire un peu et réfléchir au nombre de fois où nous avons reçu la parole de Dieu fraîchement descendue du trône, au nombre de fois où la présence de Dieu était palpable, tangible, au nombre de fois où les fleuves de bénédiction sont descendus et où les choses surnaturelles se sont produites. Dieu ne devrait-il pas être capable d'accomplir des choses encore plus grandes? Il est certain que notre Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur lui. Qu'il puisse aussi compter sur nous. Je poursuis ma lecture. Dieu a conduit les mages parce qu'ils avaient les dons appropriés. Dieu a conduit les hommes sages parce qu'ils avaient les dons appropriés pour confirmer que c'était le Fils. Vous savez ce que c'était, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, 11. Et dans ce sermon, frère Branham explique la signification de ces trois choses. Et les mages avaient les dons appropriés nécessaires pour identifier cet enfant nouveau-né comme le Fils de Dieu. Et ici, il nous est dit que c'est parce qu'ils avaient les bons dons, les dons appropriés, que Dieu les a guidés. Et nous pouvons dire que parce que Dieu les a conduits, les a guidés, ils avaient les dons appropriés. L'un s'imbrique dans l'autre et les deux sont indissociables. Et si nous avons la vraie parole de Dieu et le vrai esprit de Dieu, alors la vraie confirmation de Dieu doit jaillir et le Seigneur doit pouvoir témoigner de lui-même comme étant le vivant. Il n'y a pas d'autre moyen. Plus loin, il est dit ici, dans cette citation, « Oh, comme c'est puissant! Avez-vous compris cela, sages d'aujourd'hui? Si vous êtes sages, au nom du Seigneur, si vous possédez non pas quelque chose de faux, mais les dons que Dieu a promis pour ce temps, Dieu vous guidera afin de confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. » Voilà. Et puis le trait d'union des gens sages. La Bible dit dans le prophète Michée que celui qui est sage dans ce temps se taise. C'est plutôt Amos 5, verset 13. Que celui qui est sage en ce temps se taise, car c'est un temps mauvais. Et c'est justement en ce temps si mauvais et si grave que Dieu a parlé. Et après la parole de Dieu, il nous est dit dans le prophète Amos, au 3e chapitre, Dieu a parlé. Qui pourrait se taire? Et qui ne parlerait pas au nom du Seigneur? Amos 3, verset 8. D'une part, que nous nous taisions, d'autre part, que nous recevions la parole de Dieu et que nous transmettions ensuite au nom du Seigneur ce que Dieu a dit. Ici, dans cette citation, elle est courte, mais très, très significative. Il nous est dit ici, sage d'aujourd'hui, si vous êtes sage au nom du Seigneur, si vous possédez non pas quelque chose de faux, mais les dons réels et vrais que Dieu a promis pour ce temps, Dieu alors vous guidera afin de confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Je pense que tout ce qui doit être dit a été dit ici. Si nous avons la parole que Dieu a destinée à ce temps, si nous avons reçu réellement l'Esprit de Dieu et si nous avons des dons spirituels, des dons divins, des dons de l'Esprit, oui, si tout ce qui est divin est ainsi réuni par grâce, alors à la fin, il ne reste plus rien d'humain. Alors Dieu peut à ce moment-là seulement se manifester à nouveau ici, sur terre, au milieu de son Église. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de la guérison de quelques personnes ou de la possibilité pour certains de vivre ou de témoigner de miracles. Il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de ce que Dieu a décidé de faire jusqu'à la résurrection, le changement, la transformation et l'enlèvement. Et qu'est-ce que Frère Branham vient de dire ici? Soyez prêts à servir le Seigneur et soyez prêts à mourir à vous-même et à vos propres pensées. Mes propres pensées, je peux vous les dire directement, elles sont très belles. Mes propres pensées pourraient être à peu près comme ça. Oh, que Dieu fasse quelque chose de très grand et que le monde entier y soit attentif et que des millions de personnes deviennent encore croyantes. Je n'ai pas de mauvaises pensées. J'ai vraiment de belles pensées. Elles sont pas mauvaises. Il y a encore beaucoup de choses. Je ne donne cela qu'à titre d'exemple. Je vous demande de comprendre cela. À quoi servent pour toi et pour moi tes pensées et les miennes? Même si elles contiennent ou renferment beaucoup de grandes choses, si ce ne sont pas les pensées de Dieu. Alors ce ne sont alors que des rêves qui ne se réaliseront jamais. Il en va alors de nous comme l'a prédit le prophète Ésaïe. Il en est de nous comme d'un homme qui a rêvé qu'il mangeait et qui à son réveil avait encore faim. Ésaïe 29, 8. Vous connaissez tous la parole, vous connaissez bien la Bible, vous voyez. Mais nous ne sommes plus des rêveurs, nous sommes réveillés. Et si Dieu ne faisait plus rien du tout de ce que nous imaginons, alors dire oui et amen, être prêt malgré tout et dire au plus profond de son cœur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quelle que soit ta volonté, je l'accepterai. C'est ainsi que cela doit se passer, vous. Pensez en effet à l'histoire de Frère Branham qui vous convient certainement ici lorsque le diable se tint à côté de lui, selon son propre témoignage, alors que sa femme était en train de mourir et que sa fille était en train de mourir et que le diable lui dit, Dieu a répondu à tes prières et tu as prêché un Dieu bon qui fait grâce et qui est miséricordieux et qui aide dans les moments de détresse. Et voilà que le temps de la détresse est arrivé, son temps de détresse. Et le diable dit, oui, pourquoi ne t'aide-t-il pas maintenant? Pourquoi ne t'aide-t-il pas maintenant? Pourquoi ne t'aide-t-il pas maintenant? Bien-aimés, lorsque nous serons prêts à mettre notre volonté dans la volonté de Dieu, alors seulement le Seigneur aura son chemin avec nous. Et sans savoir ce qui allait se passer ici, je l'avais pourtant dans le cœur et cela ne date pas d'hier. Si nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse, nous devons être prêts à mettre notre volonté dans la sienne et être disposés de tout notre cœur à faire ce qu'il veut. Comme il est écrit de notre Seigneur, « Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Car il est écrit de moi dans le rouleau du livre, « C'est pour faire ta volonté que je suis venu, et c'est elle, et elle est mes délices. » Hébreux 17, si nous prenons notre plaisir dans le Seigneur, si nous faisons de lui nos délices et que nous sommes disposés à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, alors bien des choses se produiront certainement. Mais il nous est encore dit ici que les dons que nous avons et que nous apportons au Seigneur doivent eux aussi être authentiques si l'on veut que l'action du Saint-Esprit soit réelle. Et c'est là que nous arrivons au centre de toutes choses. L'Esprit de Dieu et les dons de l'Esprit sont donnés pour l'édification de l'Église. Paul le dit très clairement par l'Esprit dans 1 Corinthiens 12. Les dons et les ministères, tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, ont été donnés pour l'édification de l'Église. Et personne n'a besoin d'hésiter une seule seconde. Tout ce qui détruit et tout ce qui déchire ne vient pas de Dieu. Tout ce qui unit et édifie vient de Dieu. Et nous voulons que le Seigneur puisse vraiment se manifester, se révéler. Je poursuis ma lecture. Dieu a attribué tant de sa parole pour cet âge, tant pour cet autre âge, tant pour les autres âges. Ensuite, il a envoyé un prophète qui a été oint pour porter la parole de Dieu à son accomplissement. Et ensuite, quand il est apparu, il était la plénitude de tous les prophètes manifestés, car il faisait partie de la parole du Seigneur. Ils étaient une partie de la parole du Seigneur. Mais lui-même a dit, si l'Écriture a déjà appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, comment pouvez-vous me condamner ou me condamner si je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez, même ceux qui étaient dans les âges étaient appelés des dieux. Dieu lui-même les a appelés des dieux. Qu'étaient-ils? Ils étaient des paroles de Dieu accomplies dans la chair. Mais lui, il était la plénitude de la parole de Dieu dans un corps. Dieu révélé lui-même dans la chair. Vous savez tout ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, que lorsque les gens sont venus voir Jésus et lui ont demandé qui il est, etc., et ils ont dit, tu te fais toi-même Dieu alors que tu es qu'un homme. Le Seigneur a dit alors, l'Écriture n'a-t-elle pas déjà dit, vous êtes des dieux, nommant ainsi ceux à qui la parole avait été adressée. Et c'était les prophètes. La divinité en eux était la parole. Sur terre, c'était le même tabernacle que celui dans lequel il se trouvait auparavant. Le même corps, mais avec la venue de la parole de Dieu, une substance divine est entrée dans l'enveloppe de terre, dans le vase terrestre. terrestre. Et vous savez pourquoi? Cette substance divine est entrée dans le corps terrestre pour que ces corps terrestres soient finalement transformés, changés et deviennent des corps de résurrection, des corps qui ne pourront plus jamais vieillir ou être malades. Donc, si ceux à qui la parole de Dieu a été adressée ont déjà été appelés des dieux, qu'en est-il alors de nous? Paul n'a-t-il pas dit à un moment donné dans une écriture, nous sommes de race divine, Actes des Apôtres 17, 28, nous sommes selon l'esprit de race divine, nous sommes selon la chair de race humaine, mais Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et il veut se manifester à son peuple d'une manière nouvelle et puissante. Mais n'oublions pas une chose. Laissons de côté nos propres pensées et disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu nous as révélé dans les grandes lignes ce qui va arriver. Laisse-le maintenant se manifester en détail. Et vous verrez que par grâce, Dieu viendra à ce qu'il revienne de plein droit. Résistons et persévérons. Persévérons. Soyons patients dans la foi. Même si la promesse tarde à venir, elle ne trompe pas. Attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu fera une œuvre dans nos jours parmi les nations, et cela au milieu de son peuple qui est dispersé parmi les nations. Nous le croyons, nous le savons et nous y tenons. Aujourd'hui, nous voulons demander à notre Dieu de nous faire la grâce d'être à sa disposition afin qu'il puisse nous utiliser selon sa volonté en son temps. Et s'il nous accorde cela, alors nous sommes déjà aidés. Je crois qu'il nous l'a donné. Je crois que ces prédications ont beaucoup à nous dire à toi et à moi, comme jamais auparavant. Et je crois que cet enseignement divin était si nécessaire que nous sommes maintenant orientés et accordés pour que Dieu puisse faire les dernières choses. Pour finir, juste cette remarque. Nous savons tous que les gens vont tout de même dans les directions les plus diverses et prétendent tous croire le message que Dieu a destiné à cette époque. Et ce n'est rien d'autre que ce qu'a dit le prophète Habakkouk. La dispute et la discorde s'élèvent partout. Je vous dis que là où Christ est vraiment dans le cœur, il n'y a pas de querelle ni de dispute. Absolument pas, impossible. Il y a la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Il y a la nature et la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amadouement. Je veux dire, une personne dans le cœur de laquelle Christ habite. Je ne sais pas si je... Eh bien, taisons-nous et laissons Dieu plutôt parler. Après tout, il a déjà parlé de manière merveilleuse. Laissons-lui tout. Confions-lui son œuvre. Et il fera tout s'achever glorieusement et fera par grâce plus que nous pourrions demander, implorer et même penser. Je ne veux pas dire par là que nous ne voulons pas avoir d'idées personnelles et qu'il ne s'agit pas que certains soient guéris et que quelques miracles se produisent. Il s'agit simplement de faire en sorte que tout ce que Dieu veut voir arriver se produise et que nous ne nous focalisions pas simplement sur n'importe quelle direction en pensant cela doit arriver maintenant, mais que nous nous réunissions librement et ouvertement devant la face de Dieu et que nous disions, Seigneur, révèle-toi dans cette réunion sans avoir d'imagination personnelle. Fais-toi ce que tu as décidé de faire aujourd'hui dans cette réunion. Et c'est ce que nous pouvons encore dire maintenant dans la prière au Seigneur, afin qu'il veuille accomplir en nous tout ce qu'il s'est proposé de faire par grâce en nous tous au cours de cette heure matinale. Avez-vous compris la parole de Dieu? Vous souvenez-vous encore de la parole d'hier soir, de 1 Corinthiens 2? C'était sans doute qu'un contenu produit par l'Esprit doit être lié à une prédication produite par l'Esprit. Et c'est ce qui se passe en ce moment, dans ce temps. Le contenu de la parole de Dieu, inspiré par l'Esprit, a été associé au discours de Dieu inspiré par l'Esprit et nous a été présenté par grâce en ces derniers temps comme un message divin. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et prions. Remercions maintenant le Seigneur ensemble. Frère Rousse, peut-être viendras-tu nous pour remercier. Dieu fidèle, nous te remercions à nouveau aussi pour ce précieux message que tu nous as donné, que tu nous as à nouveau offert par grâce. Nous ne pouvons pas faire autrement, ô Seigneur, que de dire oui et amen à ta parole, car ta parole ne trompe pas, ta parole est esprit et elle est vie, Seigneur. Tu as mandaté Paul, il n'a parlé au Seigneur que de ce que tu lui as fait connaître. Tu as ordonné à tous les prophètes, Seigneur, de faire ce qui était dans ton plan et tu as uni les choses anciennes et les choses nouvelles. Alléluia. Nous ne pouvons donc que nous réjouir, Seigneur, en ta présence ce matin aussi, sachant que nous y sommes enfermés, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ô gloire et honneur, action de grâce et adoration soit à ton nom. Dieu fidèle, fais-toi connaître, Seigneur, comme tu veux te faire connaître, Seigneur. Mais Seigneur, nous attendons que tu te manifestes. Nous attendons que tu te fasses connaître avec puissance. Nous ne pouvons rien faire. Nous le disons librement. Mais toi, ô Seigneur, tu peux tout faire. Alléluia. Nous voici, ô Seigneur. Voici ton peuple rassemblé, Seigneur. Ta troupe élue, Seigneur. Non pas avec de grandes et hautes paroles savantes, mais tu les as nourris, Seigneur, d'une manière si douce et avec des paroles si simples pour que chacun puisse comprendre. Nous te donnons l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration, même en cette heure matinale. Ô Seigneur, bénis tout ton peuple partout et en tout lieu, tes enfants, Seigneur. Nous nous sentons liés, que nous soyons à Salzbourg ou à Zurich, ou que nous soyons, Seigneur, quand ton peuple se rassemble, ô Seigneur, pas seulement ici, mais partout sur toute la terre, Seigneur, que tu puisses bénir partout tes enfants et ton peuple. Nous te remercions encore une fois, Seigneur, ô Dieu, car nous savons que ta venue est très proche, ô Seigneur, et nous nous sentons liés, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Amen.